I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Vu l'ambiance un poil tendue dans notre beau pays depuis quelques mois, c'est peu dire que les manifestations du 1er mai dernier étaient scrutées avec attention de tous côtés, de la presse au pouvoir public, en passant évidemment par toutes les oppositions au gouvernement. On aurait pu espérer que cette journée soit l'occasion de mettre en lumière des luttes passées un peu inaperçues, comme, au hasard, la grève qui agite depuis plusieurs semaines les services d'urgence dans de nombreux hôpitaux. Hélas, si d'hôpital il a bien été question, ce fut surtout pour une séquence peu glorieuse où la stratégie de com' du gouvernement s'est une nouvelle fois aplatie sur le mur de la réalité. Mais c'est un autre sujet, et en attendant d'y consacrer tout prochainement un épisode, on a surtout eu envie de remettre cette grève que j'évoquais plutôt à l'ordre du jour. Que l'hôpital aille mal, c'est devenu tristement habituel. Ça fait longtemps qu'on le sait, qu'on a laissé s'installer la crise. Mais concrètement, d'où vient-elle? À quel malaise profond dans notre système de santé répond-elle? Quelles solutions imaginent les soignants et les soignantes pour sortir de l'impasse où ils se sentent coincés? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
Voici comment doit agir un bon médecin.
Il faut qu'on sache s'il y a des facteurs environnementaux ou génétiques à l'origine de la réaction inflammatoire.
Faites Allez, maintenant, tout est fort.
Histoire de bien comprendre ce qui se joue en ce moment dans les hôpitaux, quelques éléments de contexte. Le 18 mars, le personnel des urgences de l'hôpital Saint-Antoine à Paris se met en grève pour dénoncer à la fois le manque de moyens humains et financiers qui les touchent et leurs conséquences directes sur leurs conditions de travail, à savoir une dégradation de la qualité de la prise en charge des patients et donc une augmentation des tensions, voire de la violence. Depuis, la grève s'étend peu à peu à d'autres hôpitaux, d'abord au service d'urgence de la PHP, les hôpitaux publics parisiens, puis à Mulhouse, Angers, Valence et dans de plus en plus de villes pour atteindre une ampleur qui, selon les grévistes, est inédite sous la Ve République. Je suis allé discuter de tout ça avec quelqu'un qui suit ce mouvement de très près, le docteur Sabrina Ali Benali. Elle est médecin, militante au sein de la France Insoumise. Elle avait frappé très fort il y a un peu plus de deux ans avec une vidéo où elle interpellait la ministre de la Santé de l'époque, Marisol Touraine, sur l'état du système de soins français.
J'ai noté que, comme vos prédécesseurs, vous étiez obsédé par le trou de la sécurité sociale. Votre seule proposition, c'est de faire des économies partout. Là, vous voulez faire 3 milliards d'économies en 3 ans. Même au 19e siècle, ils avaient compris que les saignées, c'était pas le remède à tous les maux. Hein. Bon, il va falloir penser à rapidement réouvrir les vannes avant que le plan Touraine, ça devienne le jeu du premier qui se suicide a perdu. Hein. Bon, ça serait pas très bien pour l'hôpital, tout ça. Donc là, Madame Touraine, à force de virer dans tous les sens, là, on va quand même droit dans le mur. Hein.
Elle a depuis signé un livre, La révolte d'une interne, paru au Cherche Midi, et je lui ai demandé pour commencer ce qui concrètement avait fini par rendre la situation insupportable dans les services d'urgence.
Oh bah c'est évidemment une conjonction de tout. Hein. On est passé en 10 ans de 10 à 20 millions de passages dans les services d'urgence hospitaliers français. Dans le même temps, on a fermé 100 000 lits en 10 ans. Ainsi donc, c'est très compliqué dans les services d'urgence de pouvoir trouver des lits d'aval, ce qui fait que ça engorge au niveau des urgences. Les effectifs, eux aussi, n'ont pas suivi. Les salaires des soignants n'ont évidemment pas suivi non plus en conséquence, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des soignants qui sont précarisés. Et effectivement, la détérioration des conditions de travail fait qu'il y a un turnover permanent aux urgences, ce qui fait que c'est très difficile d'assurer une cohésion d'équipe, un travail commun, et puis tout simplement dans le quotidien, quand vous vous retrouvez de garde avec une jeune infirmière ou une aide-soignante qui ne connaît pas le service, c'est très difficile. Moi, je me rappelle me retrouver à devoir faire des points de suture, gants déjà stériles aux mains, et lui demander d'aller chercher quelque chose qui me manque puisque vous pouvez plus rien toucher, mais elle sait pas où c'est, etc. Donc vous reperdez du temps pour le faire à sa place. Et puis effectivement, les urgences, c'est le point de cristallisation de tout. C'est-à-dire que la ville qui envoie vers l'hôpital, l'absence de suffisamment de médecins généralistes, les EHPAD qui n'ont pas les moyens de soigner sur place avec pas de médecin coordinateur, pas d'infirmière la nuit, qui fait que ça renvoie aussi vers les urgences, la difficulté à trouver des lits qui fait que à l'intérieur, l'interne ou le senior va devoir appeler 5, 10, 15 hôpitaux pour trouver une place pour mettre la personne qui suit et qui nécessite des soins plus spécialisés. Donc tout ça fait que, mis ensemble, auquel vous rajoutez du coup l'épuisement des familles qui attendent des heures, l'agacement qui peut aller parfois du coup jusqu'à l'agression, l'incivilité, etc., voilà, ça fait des urgences maintenant la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Si je reprends un peu l'idée que vous développiez, c'est les urgences, c'est la partie immergée, on va dire, de l'iceberg qui montre la dégradation, non pas que des urgences, mais de tout le système de soins français.
C'est exactement ça, auquel se rajoute, en plus de la dégradation du système de soins, la dégradation tout simplement de l'état de notre société, puisqu'on y retrouve aussi les précaires, l'absence d'établissements médico-sociaux avec tout un tas de gens qui n'ont pas strictement affaire aux urgences en tant que telles, mais qui devraient être dans des établissements soit psychiatriques, soit avoir de l'aide médico-sociale, soit des agressions faites aux femmes, etc., et qui ne trouvent pas d'autre refuge que celui-là. Donc les urgences, effectivement, ça dit un petit peu l'état de santé globale de la société, et force est de constater qu'il va mal.
Est-ce que cette question, elle est suffisamment prise au sérieux par les pouvoirs publics ? Il y a eu plusieurs annonces, on va dire, à la fois de la part de la PHP précisément sur des postes qui doivent être débloqués, des moyens qui doivent être débloqués. Il y a un plan pour l'hôpital qui est annoncé de la part du gouvernement, mais est-ce que les moyens annoncés sont à la mesure du problème ?
De mon avis, absolument pas, et de l'avis des personnels qui continuent à se mobiliser non plus. Pour ne prendre que la PHP, on est passé de 35, puis à 45, puis à 61 postes supplémentaires. Les syndicats et les associations SAMU Urgence de France ont calculé qu'il manquait 700 postes. Donc vous voyez à quel point on n'est absolument pas dans le cadrage suffisant demandé. Vous avez partout l'absence de réaction, quels que soient les services d'urgence aujourd'hui. La ministre de la Santé n'a toujours pas eu une seule réaction sur ce mouvement, ce qui est dramatique quand on pense son ampleur justement inédite sous la Ve République. Elle l'a une seule fois dit à Public Sénat que ce n'était pas les conditions de travail qui avaient déclenché la grève, mais les agressions. Enfin, dire ça, c'est quand même nier toute la problématique du fait que l'incivilité et l'agression, elle ne sort pas par hasard. Il faut tenir compte d'un contexte global qui emmène les gens à en arriver là. Et c'est pas en mettant des caméras de surveillance qu'on va résoudre le problème. Aujourd'hui, vous avez encore un clip de Mulhouse qui dit clairement, nous n'assurons plus notre mission de service public, nous vous abandonnons sur les brancards. Et ça, c'est pas Sabrina qui le dit, c'est clip après clip, manifestation, tribune de gens qui sont loin d'être des réactionnaires ou des extrémistes, des gens qui juste aiment leur métier et veulent soigner correctement. Donc aujourd'hui, c'est pas des solutions qui sont proposées, ce sont des effets de communication, et derrière, il y a rien de réel, et on laisse les gens dans des souffrances qui sont pas dignes de nos gouvernants.
Et justement, alors quelles solutions il faudrait apporter ? C'est quoi les idées qui circulent actuellement au sein des groupes de soignants qui sont mobilisés pour cette grève ? Quelles idées sont mises sur la table pour améliorer la situation, sortir de cette impasse ?
Les idées, elles sont assez simples. D'ailleurs, ce ne sont pas des idées, c'est des calculs statistiques. On calcule un nombre de soignants pour un nombre de patients, etc. Donc il y a effectivement une augmentation des personnels, il y a un arrêt de la fermeture des lits intra-hospitaliers, il y a une prise en compte de la médecine de ville avec la médecine de l'hôpital, parce que faire le tout ambulatoire, ça peut être une idée, mais enfin à condition d'en assurer le service après-vente. Lorsqu'aujourd'hui, vous faites partir un patient et que son seul moyen retour dans les 48 heures, c'est les urgences, c'est pas possible. Nous, il faut aussi que les médecins généralistes en permanence de soins ou simplement libéraux la journée puissent avoir des partenariats avec les spécialistes dans l'hôpital pour faire hospitaliser des patients qui ne nécessitent pas de soins urgences directement dans les services, sans passer par la case urgence. Il y a plein de choses comme ça Et ensuite, il y a effectivement les investissements. La Fédération hospitalière de France, elle estime que pour que l'hôpital soit à flot, il faut à peu près 6,5 milliards d'investissements annuels. Aujourd'hui, ils sont en dessous de 4 milliards. Donc, il y a 1 plus 1, ça doit faire 2. Et avec ce gouvernement, 1 plus 1, ça fait toujours moins que 2. Donc, tout simplement, c'est pas possible en l'état.
Il y a une difficulté majeure, j'ai l'impression, quand on voit ça d'un œil extérieur, évidemment, dans cette grève, c'est la difficulté de la faire voir, de la rendre visible. Ça tient notamment au fait que, malgré cette grève, les soins sont assurés, les services fonctionnent, les services tournent, les services ne sont pas fermés. Est-ce que, justement, il n'y a pas un cap à passer de ce point de vue-là pour la grève ?
Ben nous, on peut pas. Nos métiers, on peut pas faire grève de cette façon-là. Alors, dans certaines villes, il y a eu des fermetures du service d'urgence sur des créneaux horaires, sauf urgence vitale. Donc, ils l'ont fait. En l'occurrence, c'est évidemment très difficile, mais au-delà, moi, je pense pas qu'elle se voit pas, puisqu'on a aujourd'hui même le hashtag soutien à la grève des urgences qui a fait un gros succès. On a partout dans les villes, et la presse en rend bien compte. Donc, le silence, il est juste un déni des autorités. Maintenant, aujourd'hui, il y a un grave problème. Quand vous pensez que à la visite de M. Castaner à la Pitié-Salpêtrière, en sus de faire un mensonge gravissime, on a jeté dans les poubelles les banderoles des soignants en grève et on a interdit au personnel qui avait les écriteaux en grève dans le dos de se montrer face caméra et de les cacher. Ça montre aussi là comment, c'est pas que ce mouvement n'est pas entendu, c'est qu'on veut volontairement le cacher et le faire taire. Et ça, c'est inadmissible.
Il y a aussi peut-être la nécessité d'avoir un relais dans la population, que ce soit la population qui se mobilise pour dire nous voulons un système de soins qui soit adapté à la société aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Bah, effectivement, c'est en l'occurrence quand on fait ces clips, ces hashtags, etc. Tout le monde demande le soutien de la population parce que c'est pas pour nous simplement qu'on fait ça. C'est évidemment pour nos patients. On a bien vu récemment le nombre de décès qu'il y a eu en salle d'attente. Et l'idée, c'est de dire ça peut être tout le monde demain et ça nous concerne tous. Aujourd'hui, avec la fermeture du SMUR la nuit et le week-end, quand vous êtes en banlieue parisienne à Issy-les-Moulineaux ou à Clamart, on a fermé la ligne de SMUR. Celui qui fait un arrêt cardiaque un week-end à Clamart, il doit attendre que le SMUR de Garches arrive. C'est 26 minutes, autant vous dire qu'il va falloir avoir des biceps pour masser. Donc évidemment, ça concerne tout le monde. Les gens doivent s'emparer de cette question. Après, c'est effectivement très difficile dans la mesure où l'état de la société est tel que les gens sont tellement pressurisés dans leur quotidien. Nous, en plus, on ne peut pas donner de date de manifestation dans la rue puisqu'on est tous les jours au travail. Ce qui fait que ça passe par les réseaux sociaux, un soutien massif sur place, devant les maternités, devant les hôpitaux, dans les services d'urgence, etc. Mais tout le monde sait aujourd'hui que la population soutient massivement les soignants. Lorsqu'on a fait avec les docteurs Peloux et les docteurs Prud'homme la pétition pour le respect des soignants et des personnels en EHPAD, on a obtenu plus d'un demi-million de signatures. Donc le problème n'est pas là, puisqu'on voit aujourd'hui à quel point, même lorsqu'il y a mobilisation, qu'elle soit dans la rue, qu'elle soit sur les réseaux sociaux, le vrai problème aujourd'hui, c'est la sourde oreille du gouvernement que je trouve personnellement à la fois dangereuse, mais aussi irresponsable.
On vous souhaite toute la santé du monde, mais avec vous, c'est plus certain. On manque de sous, on manque de tout. On manque de mains, on vous souhaite toute la santé du monde, mais sans moyens on ne peut rien. Et la direction nous répond, on a plus de sous qu'on n'a plus rien.
Même si le sujet commence peu à peu à trouver un écho dans la presse, il ne fait pas franchement la une, alors même que l'hôpital est un élément clé de notre société, l'un des lieux avec l'école où on expérimente physiquement la notion de service public, l'un des rares endroits où la volonté d'égalité censée nous unir prend véritablement corps. Pour poursuivre notre réflexion sur la dégradation de la santé en France, j'ai passé un coup de fil à Thomas Lilti. Il est médecin mais également scénariste et réalisateur. On lui doit notamment la série de Canal+ Hippocrate, inspirée du film du même nom dont il était déjà l'auteur.
Là, t'as l'accueil. Derrière, c'est le bureau des internes. C'est chez toi. 10 chambres, 18 patients.
18 ?
Je lui ai demandé ce qu'il percevait de ce que ses consoeurs et confrères étaient en train de traverser.
Alors, si on parle spécifiquement des urgences, le problème, il n'est pas nouveau, mais il ne fait que s'aggraver. C'est ce sentiment d'impuissance. Et chez les soignants, ce qui revient très fortement, c'est ce sentiment de ne pas pouvoir bien faire son travail. Je crois que c'est ça qui est au cœur de la souffrance au travail dont on parle souvent, et notamment dans le milieu hospitalier. C'est ce sentiment, non pas d'avoir trop de travail, non pas de pas aimer son travail. C'est pas ça le problème. C'est le sentiment de mal faire son travail. Ouais. Donc d'être inefficace. Et ça, c'est provoqué par quoi? Par le fait que les urgences sont surchargées, que les gens sont débordés, qu'il y a un manque de personnel, qu'il y a un manque de moyens, qui est un petit peu la même problématique. que les gens sont donc épuisés, qu'ils n'arrivent plus à être efficaces, à bien faire leur métier, et que surtout, il y a en plus à ça vient de se rajouter un manque de reconnaissance très fort, que ce soit de la société en général, aussi bien des politiques, des gens qui prennent les décisions, des administratifs, que des patients eux-mêmes, quoi, des usagers de l'hôpital qui eux-mêmes souvent ne sont pas assez reconnaissants du travail qui est fait par les soignants.
Justement, là, sur cette thématique de la reconnaissance, il y a un truc qui m'a toujours fasciné, et là je parle plus aux créateurs de films et de séries qu'aux médecins quelque part, ou même aux deux, on va dire. On a la sensation qu'il y a une figure un peu mythifiée et très aimée pour le coup du médecin, le médecin de télévision quelque part, ou le médecin de cinéma, qui entre en totale collision avec le médecin dans la vraie vie, qu'on ne traite pas du tout avec les mêmes égards quelque part. À la fois, on est très habitué à une image du médecin qu'on voit à la télé et pour lequel on a beaucoup souvent d'affection ou de qu'on a beaucoup de plaisir à retrouver. Et à côté de ça, on lit des témoignages tout à fait terrifiants sur la manière dont ça se passe vraiment, la confrontation entre le public et le corps médical. Est-ce que c'est quelque chose qui vous travaille quelque part dans la création ?
Bien sûr. Non, vous avez entièrement raison. Je pense que ça, déjà, il y a un biais énorme qui est le fait que l'image dans la fiction du médecin est surtout une image de médecin américain, finalement.
Oui, bien sûr.
Donc, puisque la fiction médicale, elle est surtout américaine. C'est Dr House, c'est Urgence, c'est Grey's Anatomy, etc. Et donc, obligatoirement, tout ça, avec l'exotisme et l'éloignement qu'on peut avoir par rapport au système de santé américain, en tout cas glamourifié par la fiction. Donc oui, mais je pense que les gens ne sont pas dupes. Ça, c'est la fiction. Et puis après, dans le monde réel, évidemment qu'il y a un manque de confiance des gens vis-à-vis des médecins, de plus en plus répandu, et parfois à juste titre, hein, parce qu'il y a eu, je pense, une image qui s'est abîmée, mais qui est surtout liée à une certaine forme de pratique médicale, et on va dire qui est surtout liée à la pratique médicale libérale, finalement, dont l'image s'est peut-être détériorée pour les Français. Par contre, je crois qu'il y a quand même encore énormément de respect pour les médecins hospitaliers, oui. Parce que les gens savent très bien que ce sont des médecins déjà qui comptent pas leurs heures, qui travaillent énormément, pour beaucoup d'entre eux, des revenus, en tout cas fait des choix de carrière qui sont pas des choix très rémunérateurs. Donc je pense quand même que les gens ont encore beaucoup de respect et sont encore très impressionnés par les médecins hospitaliers, ce qui est peut-être moins le cas en effet de la médecine de ville. Notamment, l'image des médecins, c'est qu'il y a ce sentiment que les médecins ne sont plus accessibles. C'est difficile de trouver un médecin, de voir rapidement un médecin, etc. Et donc ça a aussi abîmé la relation entre le malade et le médecin.
Cette idée de montrer, on va dire, la réalité et la difficulté aussi du travail de médecin hospitalier de manière générale, pas uniquement des urgences, mais hospitalier en général, c'était une des volontés dans la création et la mise en place d'Hippocrate ?
Oui, alors moi, je crois qu'il y a deux choses qui sont au cœur de l'envie de raconter ce monde hospitalier en série ou en film. Ça vient... Premièrement, de raconter l'engagement, en fait. Oui. L'engagement dans ces métiers de santé, dans ces métiers de soins. Alors là, on parle des médecins. Moi, j'ai raconté l'histoire de jeunes internes parce que c'est ce que je connais le mieux. Mais l'engagement, il existe chez les infirmiers, il existe chez les aides-soignants, il existe dans tous les corps de métier de l'hôpital. On ne peut pas faire ce métier dans ces conditions aussi difficiles si on n'a pas... Je ne parle pas de vocation, hein, je parle d'engagement. La vocation, moi, je ne sais pas très bien ce que c'est, puis c'est quelque chose qui se découvre. Mais par contre, il faut être profondément engagé. Il faut vraiment avoir un sens du collectif, un sens du bien commun, un sens, une envie de trouver du sens dans sa vie à travers son métier, à travers ses métiers de soins. Je crois que c'est profondément ça que j'ai voulu mettre au cœur de mon travail d'auteur de fiction. Après, il y avait aussi, je crois, derrière l'envie de raconter également la grande précarité de l'hôpital public aujourd'hui, de la paupérisation des métiers de santé, du fait que soigner c'est compliqué, que le rapport à la maladie, à la vie, à la mort, à la douleur, à la souffrance, ça impacte très fort sur les gens qui travaillent à l'hôpital, que c'est pas un métier comme les autres, quoi. C'est un métier où on est confronté quand même à énormément de souffrances et j'ai voulu essayer de témoigner de cela.
La dégradation de ce système de soins de l'hôpital public de manière générale, on va dire aussi quelque part la résignation qu'on peut avoir par rapport à cette dégradation, l'impression que ça, de toute façon ça ne va aller qu'en se dégradant, ça a un impact aussi sur la manière de le raconter, l'hôpital ?
Oui, c'est un impact qui est fort parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment... Moi, je sais que quand j'ai commencé mes études de médecin au cœur des années 90, la problématique administrative de la rentabilité, d'essayer de ce que les patients restent le moins longtemps possible à l'hôpital, etc., n'était pas du tout quelque chose qu'on était vraiment au balbutiement de ces problématiques. Oui. Et puis progressivement, au fur et à mesure de mes études, j'ai vu comment ça prenait de plus en plus de place, jusqu'à ce que ça prenne vraiment quasiment toute la place, que l'enjeu, il était là plus que l'enjeu du soin. On avait le sentiment que très vite, l'enjeu, c'était bah, il faut pas que les patients restent longtemps, il faut pas que ça coûte cher, etc., etc. De ce problématique d'économie. Et c'est vrai que je crois que c'est ça qui a beaucoup abîmé, un, la relation entre les soignants et la croyance en leur métier et la croyance en l'hôpital public. Et puis pareil, évidemment, par effet boule de neige pour les patients et pour les malades. Donc, j'ai vu comment cette dégradation, elle est venue, en effet, d'une dégradation aussi de choix politiques qui ont abîmé certainement l'hôpital public. Après, je pense que rien n'est sans retour, quoi. On peut travailler à essayer d'améliorer, mais la grande souffrance, elle vient du fait que les soignants ont de moins en moins de temps,
oui,
auprès de leurs malades, auprès des gens hospitalisés. C'est ça qui est très compliqué, c'est que les infirmiers, les médecins, ils ont moins de temps qu'avant, pas uniquement parce qu'ils sont moins nombreux, mais parce qu'on leur demande énormément aussi de travail. Un travail différent, ils ont moins de temps près des malades, et évidemment les malades, quand on est usager de l'hôpital, on est tous été dans notre vie usager de l'hôpital, ou alors on a un parent qui a été hospitalisé ou un ami, et ben on se rend compte que c'est vrai, que c'est de ça dont se plaignent les gens. On ne voit plus les médecins, on voit de moins en moins les infirmières, même si on continue à les voir beaucoup, on les voit moins qu'avant, et on a le sentiment d'être moins bien pris en charge déjà par ce manque de présence. Donc on a l'effet, il est délétère du point de vue des soignants, mais aussi évidemment du point de vue des usagers.
Oui, justement, c'est pour revenir à cette idée d'engagement qu'on évoquait plus tôt, la difficulté principale, on a l'impression qu'expérimentent les soignants vraiment, c'est d'avoir un quotidien qui ne soit pas à la hauteur de l'engagement qu'eux mettent dans le travail, d'avoir une réalité du travail qui est très éloignée de l'investissement qu'eux peuvent envoyer dans leur pratique professionnelle.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que l'investissement pour les hospitaliers, j'englobe hein, aussi bien les médecins que les autres corps de métier, les autres soignants. Les soignants en général, j'essaie quand même de trouver une unité entre tous, même si chacun fait un métier différent. Vraiment, vous mettez le doigt sur une chose qui est importante, oui, c'est que cet engagement, en effet, il vient frotter avec un sentiment de désengagement du service public, de l'État. Et c'est vrai à l'hôpital, mais c'est vrai aussi en médecine rurale, c'est vrai aussi en médecine libérale, pour pas brocarder la médecine libérale du tout, parce qu'en effet, en médecine libérale, il y a aussi ce sentiment des médecins qui s'installent dans des zones où il y a peu de médecins, où ils abattent un travail énorme, avec le sentiment, eux aussi, d'être oubliés par l'État, par les pouvoirs politiques. Et c'est comme ça que se sont propagés année après année des déserts médicaux qui sont maintenant même au sein des villes.
Et dites-vous bien que nous n'avons ici abordé qu'une petite partie d'une crise plus large qui secoue tout le système, non pas uniquement de santé, mais de services publics français, avec en filigrane la réforme voulue par l'État du statut des fonctionnaires, unanimement dénoncée par les organisations syndicales, mais sur lequel le gouvernement ne semble pas décidé à reculer. Merci à Sabrina Ali Benali et Thomas Litti pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Et à demain. Un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.